RCF.
Laurence Varro, vous nous faites découvrir toute cette semaine la spiritualité d'une Russe orthodoxe, d'une sainte même. Bonjour.
Bonjour Madame Vatel.
Vous vous êtes attachée à cette figure du monde orthodoxe, Marie Skoptsov. Vous-même, vous êtes de confession orthodoxe et vous avez écrit cet ouvrage publié aux éditions Nouvelle Cité, Prier 15 jours avec Marie Skoptsov. Alors, c'est une femme qui est née à la fin du 19e siècle en Russie. Elle va être dans ce temps de révolution, contexte qu'elle va quitter, puisqu'elle fait partie des exilés qui arriveront à Paris après la révolution. Racontez-nous comment ça se passe.
Alors, en 1918, elle est maire de la ville où elle a une propriété, des vignobles, elle est maire d'Anapa, et puis deux ans après, les Blancs reprennent la ville et elle va passer en jugement. Pendant son procès, elle répond de manière très belle, elle va impressionner les juges, et puis il y a dans la salle quelqu'un qui a des responsabilités administratives et militaires, qui s'appelle Daniel Skoptsov, qui tombe amoureux d'elle. Il a un coup de fou en entendant la façon dont elle se défend. Et il se marie parce qu'elle a divorcé, elle vient de divorcer. Elle a un enfant donc déjà depuis quelque temps. Ils se marient et ils vont faire le périple des Blancs à cette époque, c'est-à-dire qu'ils vont passer par la Géorgie, par Constantinople et ensuite par les Balkans pour arriver dans l'émigration russe à Paris en 1923. Lui et elle ont à charge à ce moment-là deux enfants qui sont nés pendant le trajet. Anastasia et Georges, en 21 et 22, et ils ont aussi la babouchka, la grand-mère, la mère de Mère Marie, qui ne cessera jamais d'être auprès de sa fille et qui lui survivra.
Oui, Marie Skoptsov deviendra Mère Marie, donc une femme qui a trois enfants, deux mariages, deviendra moniale. On y reviendra, c'est assez curieux, mais c'est vrai que c'est un trait de sa personnalité et de son parcours, évidemment. Ce long et difficile voyage, ce périple pour quitter la Russie et finalement arriver en France, est-ce que c'est son premier contact avec la pauvreté, avec les privations, avec une vie difficile ?
Le contact qu'elle a eu de vivre déjà la Première Guerre mondiale et ensuite les débuts de la Révolution russe, on fait d'elle quelqu'un qui avait perdu son côté jeune fille de bonne famille, plein d'illusions, vivant l'équivalent d'un Saint-Germain-des-Prés à Saint-Pétersbourg. Mmh. Donc elle avait été confrontée à la mort, à la violence, à l'injustice. Et au moment où elle arrive à Paris, effectivement, là, elle va être confrontée à la misère. D'abord, ils vont vivre très difficilement. Toute cette famille, ils vont vivre difficilement. Lui devient chauffeur de taxi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les officiers russes avaient le permis de conduire. Et puis, ils pouvaient garder une certaine liberté, donc ça leur allait bien de faire ça. Mmh. Elle fait des travaux de couture, la babouchka s'occupe de la maison et il y a les trois enfants. Pourquoi la France aussi, il faut le dire ? Parce qu'en 1893, il y a eu une alliance franco-russe entre la République française et l'Empire russe. Et aussi parce que c'est un pays très chrétien encore profondément, en tout cas de tradition. Et les Russes vénèrent sur les icônes des saints français.
Alors, puisque vous parlez de la vénération des icônes, la vénération d'une icône, c'est d'abord le respect de la dignité de chaque personne, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand un orthodoxe s'approche d'une icône, qu'il l'embrasse, ce qu'il embrasse, c'est pas l'image, c'est vraiment qu'à travers chaque personne, Dieu peut être présent.
Oui, l'orthodoxe vénère en fait ce que représente l'image. C'est pas un culte de l'objet. Mais effectivement, pour les orthodoxes, les personnes doivent être vues comme des icônes, profondément. Et c'est à ce à quoi parviendra à la fin de sa vie Mère Marie, après qu'elle soit devenue moniale et vers la fin de sa vie.
Alors, je voudrais simplement qu'on revienne sur ce qui va se passer pour elle au fil du temps, c'est-à-dire cette sortie des illusions et la vérité qu'elle va chercher. C'est une femme qui ne s'encombre pas de ce que l'on devrait faire ou de ce qui devrait accompagner tel ou tel statut en quelque sorte. Quelle liberté elle porte finalement pour vous ?
Alors je dirais que pour en arriver là, il a fallu quand même qu'elle passe par des étapes crucifiantes qui ont été en 1926 la mort de sa petite fille Anastasia quand elle avait 3 ans.
En quoi ça va être pour elle une étape décisive ?
Elle va changer son mode de vie. Elle était assez engagée dans les mouvements orthodoxes de ce qu'on appelle l'ASER, l'Action chrétienne des étudiants russes, qui organisait des camps de vacances, des foyers, qui existent toujours d'ailleurs. Et puis elle passe 2 mois au chevet de sa petite fille qui agonise à l'Institut Pasteur. Et à ce moment-là, c'est une telle fracture dans sa vie qu'elle va... Elle va commencer à changer radicalement au quotidien, c'est-à-dire que elle va s'engager résolument en devenant secrétaire itinérante pour la SER. En fait, elle va commencer à partir. Et ça, c'est une tradition très ancienne. On retrouve ça aussi chez les moines du désert. C'est une idée très importante, l'idée de quitter l'endroit où on est. Or, elle avait déjà quitté l'endroit où elle était puisqu'elle avait subi l'émigration russe, qui était d'une violence extrême. Quand ils sont arrivés, c'était des apatrides qui avaient ce qu'on appelait un passeport Nansen qui leur permettait de circuler. Mais il ne faut pas s'imaginer que parce qu'ils étaient russes et chrétiens, les Russes étaient forcément très bien accueillis en France. Ce n'est pas vrai. Et on arrive aussi, elle a vécu la crise économique de 1929 en tant qu'apatride.
Comment est-ce qu'elle devient religieuse ? Parce que jusqu'en 1927, elle est mariée. Vous venez de le dire, elle a perdu sa première fille. Néanmoins, elle est quand même maman. Qu'est-ce qui fait qu'elle va décider de s'engager dans l'Église orthodoxe ? D'abord par des actions, mais elle va plus loin parce qu'elle va être moniale par la suite. Elle va avoir le voile.
Oui, elle a encore 2 enfants quand son mariage s'est délité. Daniel Skopsov a accepté la séparation. Il accepte cette situation parce qu'il comprend qu'il est complètement dépassé par le comportement de sa femme.
Complètement dépassé, oui, elle a un désir de Dieu qui est tellement fort qu'elle est rattrapée en quelque sorte par ce désir-là. Elle va vivre dans une petite communauté, on dira, puisqu'on est dans le monde orthodoxe, c'est vrai qu'il y a cette expression chez les orthodoxes, les folles en Christ, ces mystiques vagabonds qui vivent dans le plus grand dénuement. Alors l'idée c'est de se rapprocher de Dieu, mais d'une certaine manière quand elle se met à voyager partout en France à la recherche presque du plus pauvre, c'est assez curieux. Elle a ce goût d'aller secourir, d'aller aider d'abord au niveau de la charité, bien que ce soit au départ une grande intellectuelle.
Oui, effectivement, elle dit les folles en crise comme je les aime. Mais ça, c'est une tradition russe dont on parlera peut-être tout à l'heure. Elle commence par déjà installer avant d'aller errer ou d'être tentée par l'errance, elle commence par créer une sorte de petit monastère dans le 7e arrondissement Villa de Saxe avec deux moniales. Et puis, ils sont dépassés par la demande parce qu'il y a une demande d'aide sociale, il y a une demande de conseils, les gens quasiment se confessent à elle, etc. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'elle qu'elle va quitter le 7e pour s'installer 77 rue de Lourmel et créer ce qu'on a appelé l'Action orthodoxe, qui était une aide sociale extrêmement puissante.
Alors je voudrais qu'on écoute l'un de ses écrits, enfin un extrait d'un de ses écrits. C'est un petit passage qui raconte au fond le sens de la priorité. Alors elle a beaucoup utilisé le terme de christifier sa vie. Qu'est-ce que ça voulait dire christifier sa vie ? Et peut-être ce petit passage dit-il ce qu'est christifier sa vie ? On l'écoute, il est lu par Guillaume Galbon.
Lorsque les ermites fabriquaient des corbeilles en vannerie ou des pots, c'était bien sûr secondaire. Il en va de même quand nous épluchons les pommes de terre, raccommodons le linge, faisons les comptes ou prenons le métro. En revanche, quand les anciens moines, par obédience, enterraient les morts, soignaient les lépreux, prêchaient aux femmes de mauvaise vie, dénonçaient l'existence dissolue ou faisaient l'aumône, ce n'était pas accessoire. Il en va de même quand nous agissions dans notre quotidien, visitons les malades, nourrissons les chômeurs, instruisons les enfants, rencontrons toutes sortes de peines et de déchéances humaines, quand nous sommes confrontés à des ivrognes, à des criminels, à des fous, à des désespérés, à des épaves et à toutes les lèpres spirituelles de la vie.
Laurence Varro, cette expression « les lèpres spirituelles de notre vie », comment vous les comprenez dans la bouche de Marie Skoptsov ?
C'est très violent comme expression et comme texte, parce qu'elle regarde les choses en face. Christifier sa vie, c'est avoir un cœur qui brûle d'amour et dont même Isaac le Syrien disait qu'il fallait même prier pour les serpents. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit l'Épître aux Galates. Donc ça vient tout à fait de là. Et c'est toute la piété évangélique qui consiste à christifier sa vie, car on doit être en accord avec l'image de Dieu qui est incluse en nous, et que seul l'amour a assez de feu pour embraser le monde, dira Mère Marie. Là, elle fait une distinction très nette, et d'ailleurs, il y a un aspect polémiste chez elle, qui viendra plus tard, dans les années 30, où elle met en cause une certaine manière d'être moine, et où elle considère que celle qu'elle a choisie est la seule qui soit sérieuse.
La façon d'être moniale,
oui,
qu'elle a choisie.
Oui, elle met en cause à un moment, dans les différents types de filles religieuses, elle va faire un article qu'elle va faire publier qui est très, très polémique, où elle met en cause les orthodoxes qui sont là par fidélité au tsar, ceux qui sont là parce que c'est très beau, ceux qui sont hyper, ce qu'elle appelle la piété légaliste, hyper stricte. Bon, c'est quand même assez audacieux de sa part de mettre en cause une manière d'être moine qui n'est pas la sienne, hein. Ce qui fait que d'ailleurs, elle n'a pas toujours été, même si elle a été reconnue comme une sainte assez rapidement, et en tout cas dès après sa mort, elle a aussi été, dans les années 30, extrêmement contestée.
Alors, on reviendra sur les multiples critiques, parce qu'elle a aussi été critiquée, notre Marie Skoptsov. Merci, Laurence Varro.